toi.
Il est 19h, passé de 5 minutes.
Nous sommes le mercredi 6 novembre 2019.
Et c'est l'heure du Canu Info.
Et nous avons couru.
Et on n'est même pas encore installé, pardon pour la porte.
De quoi va-t-on parler ce soir?
Alors, ce soir, eh ben, je fais le fil tout seul, ou alors tu arrives à lire parce que
j'arrive à lire.
Alors, eh ben, on va parler forcément du projet de loi sur l'immigration.
Et nous allons parler de Marseille et de la commémoration du 5 novembre.
Et ensuite, on finira ce Canu Info par un petit bloc racisme où on parlera islamophobie et discrimination.
Canu Info. Du mercredi.
Pour dire que ce matin, en soutien aux colleuses contre les féminicides qui avaient été les colleuses interpellées dimanche soir, ce matin, il y avait un rassemblement devant le commissariat du 3e arrondissement, donc le commissariat place Badourian. Et pour rappel, en fait, ça c'est une action qu'il y a dans plein de villes depuis septembre. On peut voir, en fait, c'est toujours des grandes lettres noires sur fond blanc.
Des A4 comme ça.
Ouais, avec par lettre, donc c'est un peu grand et il y en a sur plein de monuments.
C'est assez efficace.
Et par exemple, il y a sororité ensemble pour lutter ou femmes victimes de violence. Nous on vous croit ou plainte ignorée, femme tuée. Et donc, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a 4 colleuses qui ont été interpellées pendant qu'elles collaient rue Servian. Et ensuite, donc, on a pu lire sur leur compte Twitter. Nous souhaiterions autant de réactivité de la part des forces de l'ordre quand il s'agit de protéger les femmes victimes de violences. Voilà. Et moi j'avais envie de faire un petit PB parce que je trouve ça chouette de voir plein de choses féministes écrites sur les murs, mais un PB c'est un PB au lieu d'un PS, donc un petit bémol, parce que je trouve que dans certains des slogans il y a une demande d'intervention de la police en matière de répression, et du coup là de qu'ils agissent en termes de répression sexiste, dont notamment les trucs de que fait la police ou je sais pas quoi. Et pour ma part, en tout cas, je pense que c'est pas une solution d'en appeler à l'augmentation de la répression. Surtout que concrètement, ce qu'on voit dans la mère réalité, c'est que elle permet surtout d'incriminer plus d'hommes racisés, précaires ou pauvres. Et du coup, voilà, c'est toujours, c'est un petit bémol. Et en tout cas, dans l'idéal, je voudrais pouvoir détruire le sexisme et l'État dans un même mouvement.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et oui, suite à l'enfumage médiatique ces derniers mois autour, je le nomme, du grand débat national, qui, soit dit en passant, a surtout contribué à de nombreux propos racistes dans beaucoup de médias et à véhiculer des idées imaginaires xénophobes. Je vois pas trop ce qu'il a fait d'autre, mais bon. Je sais pas si toi t'avais entendu des trucs positifs, mais...
Non. Non. Bah, c'est de toute façon un grand débat organisé par un gouvernement, du coup.
Voilà. Voilà, aujourd'hui, c'était annoncé dans tous les médias, ils viennent de présenter les principales mesures en matière de politique d'immigration, d'asile et d'intégration. Alors, bien évidemment, on est allé les lire, ces mesures. Puis aussi, on a entendu plein de commentaires de politiques et de journalistes qui nous ont un peu hérissés. Et donc, je vais commencer sur l'immigration économique. Et donc, contrairement à ce que vous avez entendu aujourd'hui dans les médias, si vous avez écouté les médias ou lu des médias, c'est un peu présenté comme mesure phare, mais qui change la donne politique actuelle. Sauf que il y a rien de nouveau. Il y a sous le soleil. Il parle d'objectifs quantitatifs où des quotas seront fixés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Ces quotas qui fonctionnent comme un référentiel qualitatif ou une fourchette ne seront pas limitatifs et ils seront débattus chaque année au Parlement à partir de 2020. Mais il le présente vraiment comme quelque chose de nouveau et une sorte de faux débat entre droite et gauche de est-ce qu'il faut mettre ou pas des quotas. Sauf que et les quotas et le travail des étrangers en France existent depuis belle lurette. C'est pas nouveau que des main-d'œuvre étrangères sont sollicitées pour construire le pays. Par exemple, il y avait eu les premières limitations par l'État des travailleurs étrangers. C'est fait en 1974 sous Valéry Giscard d'Estaing au moment de la crise économique. Les règles d'entrée des travailleurs se sont durcies sous l'effet des réformes successives. Pour vous donner un ordre d'idée, passant de 175 000 en 1970 titres de séjour délivrés à environ 15 000 aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant ce chiffre parce que on voit bien les politiques globalement elles se sont durcies. Donc là sur les questions d'immigration de main d'œuvre et du coup souvent temporaire aussi. On observe une inflexion inverse depuis la fin des années 2000. Au nom d'une immigration choisie, des mesures facilitent l'arrivée des travailleurs dans les secteurs qui peinent à recruter. Vous savez, les fameux métiers en tension, l'hôtellerie, la restauration, le BTP, mais aussi l'hôpital public. Et du coup, c'est vraiment le gouvernement allemand qui avait reconfiguré la donne en matière d'immigration de travailleurs, comprenant aisément que les travailleuses temporaires permettaient plus de profits pour les patrons et donc de faire foisonner le système capitaliste et à le maintenir. En fait, de faire venir une main-d'œuvre étrangère sur des métiers en tension permet de niveler vers le bas les conditions de travail, puisque beaucoup des salariés ne connaissent pas le droit français. Et cela oblige toutes et tous les travailleurs dans ce secteur de métiers en tension d'accepter les conditions de merde. Et ça, en France, c'est d'autant plus vrai, parce que je parle bien d'obligation, puisque maintenant, avec Pôle emploi, on peut seulement refuser 3 offres avant qu'ils nous coupent nos droits. Donc, on est obligé. Parce que plein de gens refusent des métiers et c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est que les conditions de travail proposées par l'employeur sont considérées comme incorrectes et indécentes. Sauf que maintenant, on est dans l'obligation, donc c'est un super bénéfice pour les patrons qui peuvent exploiter de la main d'œuvre française et étrangère en rentabilisant au mieux la sueur des salariés. Donc le secteur c'est un exemple qu'il y avait dans le secteur médical au début des années 2000. L'État avait proposé des postes de médecins en pensant que ça allait intéresser des médecins indiens. Sauf que à l'époque, peu étaient venus puisque les conditions de travail et la peine n'étaient pas assez intéressantes. Donc pour montrer aussi qu'il y a plein de propositions qui sont faites qui intéressent pas pour autant les gens à venir en France. Et là, dans ce cas-là, c'était majoritairement des médecins d'Europe de l'Est qui avaient pourvu ces postes. Donc lorsqu'on entend des patrons comme j'ai pu entendre aujourd'hui du MEDEF ou autres parler de quotas, de soi-disant trop d'immigration, ils sont dans du double discours ou de la malhonnêteté, car ce sont les premiers à exploiter d'autres êtres humains et à en profiter. Et bien sûr, ils axent sur aussi dans cette loi là, ce package sur l'immigration choisie pour permettre le rayonnement de la France à travers le monde. Donc ils veulent attirer. Donc il y a certains travailleurs qui ne sont pas dans les métiers en tension qui veulent attirer, mais aussi ils veulent attirer beaucoup d'étudiants étrangers d'ici 2027. Ils disent 500 000. Alors, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a plein. Il y a déjà, je sais pas si c'est plus ou moins. En tout cas, il y a déjà plein d'étudiants. Il y a rien. Ouais, c'est pas nouveau. Et par contre, ce qui est nouveau, c'est les systèmes. Du moins, ce qui est nouveau, pas écrit dans cette loi, mais de fait dans la réalité qui se passe depuis des, plein d'années, c'est que les systèmes de sélection sont de toujours plus rigoureux pour toujours mieux trier en fonction de la classe sociale et donc du pouvoir économique.
Et aussi,
de ses étudiants.
Et aussi depuis, enfin d'année en année, les conditions d'attribution, enfin de maintien à un étudiant sont de plus en plus rigoureuses. C'est-à-dire qu'avant on pouvait un peu rater des semestres et ça passait, et ça devient de plus en plus compliqué si on n'atteint pas les résultats escomptés, on peut se voir refuser, retirer son titre en tout cas.
On n'a pas le droit à l'échec.
C'est ça. Et il y a tout un point aussi sur l'AME qui est une des cibles un peu de
ce... Redis ce que c'est l'AME.
L'AME, c'est l'aide médicale d'État, qui est donc ouais la une des cibles, et ils en avaient parlé avant, là, ils avaient préparé le terrain là-dessus. Puisque, alors, d'après le gouvernement, il y aurait en France ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent, un tourisme médical qui consisterait à venir se faire des soins de confort pour des personnes venant de pays qui ne seraient pas si mal lotis que ça sur le plan médical. Alors, pour Castaner, la cible de ce problème, ce sont les Géorgiens. Bon, ça y est, le tableau est dressé. Les vilains Géorgiens viennent piller nos ressources médicales en France, gratos, sans difficulté, pendant que le Français ou la Française moyenne se saigne tous les mois pour pouvoir se payer des prothèses dentaires qu'elle n'arrive pas à se payer. Bon. Eh ben, tout ça, en tout cas, c'est bien pratique, puisqu'on est quand même, on le rappelle, en pleine lutte dans les hôpitaux pour réclamer plus de moyens, lutte qu'on pourrait qualifier d'historique, puisque même les chefs de service qui n'ont pas l'habitude de se mouiller dans les luttes se mêlent aux revendications et dénoncent à la fois le manque de moyens et les logiques managériales dignes d'Amazon au sein de l'hôpital public. Ce à quoi le gouvernement a quand même bien du mal à répondre et ne peut pas dire si, regardez, les aides-soignantes et les infirmières sont bien payées, il y a de l'argent dans les hôpitaux, regardez, les urgences ne sont pas saturées et il ne manque aucun lit. Bref, tout ça tombe plutôt mal, car cette lutte est un peu populaire, c'est-à-dire que personne va dire, contrairement un peu aux luttes de la SNCF, où les gens disent, ah, il y en a marre, machin, les cheminots sont bien payés, là les gens vont pas dire, ah, les infirmiers et les infirmières sont remplis davantage, bref. Le gouvernement a un peu du mal à désamorcer ce conflit. Voilà. En gros, niveau chiffres, si on suit le cheminement de Castaner et qu'on se dit que ce sont donc les Géorgiens le problème, c'est qu'ils doivent être un paquet à demander l'asile en France. Bon alors, c'est vrai, en 2018, c'est la plus forte hausse par pays de demande d'asile, plus de 156%. Ça fait beaucoup, c'est un chiffre, ça fait énorme à citer. Ça représente 7500 personnes. C'est pas beaucoup.
Non.
C'est pas dingue, quoi. Pas de quoi creuser le trou de la sécu, même si ils se font tous poser des prothèses de hanche. Parce que ça fait partie, les prothèses de hanche, ça fait partie un peu des trucs qui sont dits, là. Les gens viennent comme ça et se font poser une prothèse de hanche. Bon, les prothèses de hanche, on se la fait pas non plus poser pour le plaisir. C'est pas, tout ça est relatif. Bref. Ce que prévoit le gouvernement là-dessus, c'est donc pour les sans-papiers. Alors quand je vais parler de sans-papiers et de demandeurs d'asile. Alors la différence, c'est que quand on arrive en France et qu'on n'a pas de papier, rien, qu'on a été débouté de tout, du demande d'asile, tout ça, on peut avoir l'AME. Pour voilà, et ça nécessite un délai de carence de 3 mois de résidence en France pour bénéficier de l'AME. On se souvient quand même que l'AME, l'aide médicale d'État, a quand même été créée à la base, c'était pas du tout, ou pas seulement, ça dépend du point de vue, pour protéger les migrants qui arrivent en France. C'était qu'en fait, les gens, ils arrivent et ils peuvent arriver avec des maladies dans un pays. Ce qui est pas grave, par exemple en France, on a de quoi soigner la plupart des maladies. Sauf que si on n'accorde pas à ces personnes de quoi soigner, et ben en fait, certaines maladies sont contagieuses et donc se répandent au bon français ou à la bonne française. Et là, j'ai plus l'historique exact et la date exacte de la création de l'AME, mais là, le gouvernement s'est dit, ouh là, on risque quand même des pandémies et tout ça. rendons le soin possible et universel à tout le monde pour éviter que les maladies se répandent. Et donc ça a aussi permis que les gens puissent être soignés dans de bonnes conditions, en tout cas dans des conditions puissent être soignés, parce que les conditions sont quand même pas mal détériorées, parce que l'AME est quand même rognée de plus en plus. Bref. Donc un délai d'instauration de 3 mois pour éviter donc cette espèce de tourisme. L'abaissement de 6 mois au lieu de 12 mois du prolongement de l'AME après le rejet de la demande d'asile, c'est-à-dire qu'en fait voilà, vous déposez une demande d'asile, vous avez l'AME, cette demande d'asile est rejetée, vous avez encore 12 mois d'AME. Les caisses, alors ça c'est très technique, mais les caisses d'assurance maladie pourront avoir accès au fichier VisaBio qui compile entre autres les demandes de visa d'une personne. Bref, ça c'est pour la partie.
Voilà, parce que je trouve hallucinant là-dedans. Oui, voilà, c'est ce fichage systématique et comment des données personnelles elles le sont plus.
C'est ça.
Que sous couvert d'une condition. D'une certaine condition, et ben ça rend acceptable le fait que en fait le médecin n'a pas à avoir d'infos sur ton visa, ou les gens de la préfecture n'ont pas à avoir d'infos sur ton état de santé. Sauf que là
c'est ça. Alors là ce sera pas directement le médecin, ce sera vraiment l'assurance maladie a priori si ça est accepté. Mais en tout cas effectivement c'est ça, c'est le truc de se dire en fait on a créé un fichier à la base qui était pas du tout censé être accessible par la caisse d'assurance maladie pour vérifier X ou Y truc, mais voilà, pour lutter contre tout plein de, enfin voilà,
soit disant pour la fraude, mais c'est pour aussi pouvoir, si au cas où une personne elle devient illégale et qu'elle est plus le droit de séjour sur le territoire français, d'augmenter les chances de délation de plus d'administration.
C'est ça. Et en tout cas, c'est vraiment le truc où ce système où à chaque fois on crée un fichier en disant ah mais regardez là il y a un vrai problème nanana, et ce fichier vous inquiétez pas il sera accessible que par tel et tel service, et puis au final à chaque fois que là enfin là on parle quand même de 7005 personnes en gros hein, et donc on va rendre accessible un fichier quand même important à l'assurance maladie pour lutter contre un truc, bref voilà. En tout cas aussi pour les demandeurs d'asile, il y a un délai de carence de 3 mois qui serait éventuellement aussi envisagé, à l'exclusion des soins d'urgence. Et bien sûr, un certain nombre de soins considérés comme non urgents ne seront plus pris en charge par l'AME. Bon, alors là, on voit bien sûr le but premier pour le gouvernement, c'est sûrement de faire de minables économies. Parce que
c'est des économies.
Oui,
partout.
C'est ça. Mais aussi d'orienter le débat public sur la figure du sans-papier qui vient se faire payer des soins de luxe et de confort sur le dos du bon français. Concernant la demande d'asile.
Ah oui, alors là, moi j'ai entendu des trucs hallucinants là, de confusion entre l'ADA et le RSA.
C'est ça. Alors, en gros, puisqu'on est un peu sur le même tableau et que, on précise quand même que tout ça, c'est même pas encore à l'état de projet de loi, c'est à l'état de, on donne des grandes lignes, comme ça va en débattre sur les plateaux télé, dans les radios, chez
parce
les gens, machin.
Démocratie.
C'est ça. Et donc... En gros, voilà. Et on continue sur ce même tableau de la figure de la personne qui vient profiter des trucs chez nous, avec cette fois-ci l'histoire du demandeur d'asile qui touche le pactole. En gros, le projet, ce projet de loi, en tout cas, ce que dans les grandes lignes prévoit la fin du, c'est dit comme ça, hein, du cumul entre l'ADA, qui est l'allocation de demande d'asile, et le RSA. Alors bon, quand on dit ça, en fait, on laisse volontairement croire aux gens qu'un demandeur d'asile peut toucher le RSA et qu'en plus, il peut le cumuler avec l'ADA. Donc le RSA, pour une personne seule, c'est 400 euros à peu près. Et l'ADA, quand on est demandeur d'asile, on peut toucher l'ADA. Et ça représente, en gros, 200 euros à peu près. Donc voilà. Donc une personne seule pourrait toucher au moins 700 euros par mois. Donc voilà, en gros, on a l'image du demandeur d'asile qui arrive en France et qui se tape de 700 euros par mois. Et ben, sauf que c'est pas du tout le cas. En gros, si vous déposez une demande d'asile, vous bénéficiez de l'ADA qui est d'environ 200 euros, comme je le disais tout à l'heure, et vous pouvez demander le RSA qui vous sera refusé en raison de votre statut, qui fait qu'on peut pas toucher le RSA pour l'instant. Mais si et seulement si, après examen de votre demande, on vous accorde l'asile, alors dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier rétrospectivement du RSA à partir de la date de votre première demande. Car on juge que votre demande est légitime à partir... est légitime car un organisme a jugé votre demande recevable. En l'occurrence, là, c'est l'OFPRA qui a accepté votre demande d'asile. L'administration considère que vous n'êtes pas responsable du délai de traitement de votre demande. En gros, vous demandez l'asile tel jour, et si que l'administration, ça vous échappe complètement, vous donne raison ou tort dans un délai de 1 jour, 6 mois, 2 ans, 5 ans, vous n'êtes pas responsable de ça. Donc, à partir du premier jour où vous avez fait la demande de RSA, on vous l'a refusé. En gros, on vous la refuse en attente de voir si vous avez le droit ou pas d'être là. En gros, c'est ça qui est dit.
Oui, mais sauf qu'une fois que, donc, si vous avez la chance donc, d'avoir l'asile...
C'est ça.
Ils ne sont pas cumulatifs pour autant.
En gros, c'est ça. Alors déjà, si vous avez, tu fais bien de préciser, si vous avez la chance, parce que ça ne concerne quand même pas beaucoup de gens qui demandent l'asile et qui l'obtiennent. Et effectivement, en gros... Vous pourrez donc toucher rétrospectivement ce RSA, mais comme pour tout le monde, ce RSA, on déduit
l'argent
que vous avez déjà touché. Oui. C'est donc l'ADA, qui est l'allocation que vous avez touchée pendant votre demande d'asile, elle est considérée comme un revenu. Et comme pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle spécifique pour telle ou telle personne, le RSA va déduire ce revenu qui est l'ADA du RSA. Donc en gros, vous allez toucher rétrospectivement 400 euros par mois moins 200 euros de l'ADA. Donc vous toucherez à peu près 200 euros par mois et après à ça s'ajoutera le nombre de mois du délai. Bref.
Oui, mais c'est sauf que ce qui... Bref, je pense qu'on peut... j'espère que les auditeurs y sont à peu près compris dans l'ensemble. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand même que dans les médias... aujourd'hui, cette phrase-là, autour du cumul de l'ADA et du RSA, était dite comme ça, sans aucune précision. Et du coup, ce truc de mensonge véhiculé est, comme tu disais, d'imaginaire, ou en tout cas, ça fait de l'étalage, je trouve, et ça encourage tous ces trucs xénophobes de l'ordre de ces imaginaires de gens qui viennent profiter d'un système, quoi.
C'est ça.
Et ce projet de loi, il vient contribuer... entièrement à ça.
Oui, et puis dans le truc que toi tu disais, où effectivement, ça, pour le coup, à part sur le volet de l'AME et enfin sur quelques points qui sont des atteintes graves, mais bref, en tout cas, ça a l'air d'être un peu de l'enfumage technique. Ou en gros, l'idée, ça a l'air vraiment l'air d'être d'orienter le discours ou cette espèce de nébuleuse qu'est l'opinion publique sur l'immigration et comme le font les gouvernements depuis des dizaines d'années, à chaque fois c'est le même truc, quoi.
Et ce qui est pas de l'enfumage, c'est tout le côté répressif, puisque bon, pareil, ils en discutent, mais souvent c'est les premiers trucs appliqués. Et donc dans ce projet, il y a notamment renforcer la fraude, la lutte contre la fraude en matière d'immigration familiale. C'est encore une fois pareil que pour l'AME, c'est que c'est déjà le parcours du combattant ou de la combattante pour arriver légalement en France en matière de regroupement familial actuellement, donc ça va être encore plus compliqué. Ils veulent ouvrir 3 nouveaux centres de rétention administrative, comme s'il n'y en avait pas déjà assez sur le territoire, sachant que maintenant, avec y a de plus en plus aussi de personnes qui sont dans les prisons classiques et pas en centre de rétention. Voilà. Et ils parlent d'un l'éloignement des hommes condamnés pour violences sexuelles ou sexistes. Je sais pas exactement ça ce que ça veut dire. Faudra s'y plancher dans les prochains mois. En tout cas, l'éloignement, ça veut dire retour sur le territoire. Donc c'est encore une fois des nouveaux délits qui peuvent être cumulatifs au fait d'être plutôt qu'au centre de rétention, être en prison, mais ça sera à creuser. Et d'ici la fin de l'année, donc là ça serait donc dans un mois, le fait d'expulser les campements dans le nord-est de Paris. Voilà.
Oui, c'est ça. Il parle aussi de rendre plus compliqué, alors on ne sait pas trop comment, mais l'installation de campements de migrants ou de rendre plus facile l'expulsion de campements de migrants, mais tout en ne disant pas du tout que là pour la plupart, en tout cas ceux dont on parle là, souvent, que ce soit La Chapelle ou machin, c'est des gens qui normalement devraient bénéficier de places de foyer, c'est-à-dire que quand on fait une demande d'asile dans la, quand on est dans le parcours de la demande d'asile, l'État est censé prendre en charge au niveau de l'hébergement les personnes qui font les demandes.
Donc ils disent ce que tu dis, et en même temps ils parlent de mobilisation de 16 000 logements. Alors étant donné que depuis 10 ans ils suppriment les places de, entre guillemets, vrais logements pour les transformer l'hiver en des places dans des gymnases ou des trucs comme ça qui sont pas des logements, qui sont effectivement un toit, mais on pourrait pas le qualifier de logement. Et ben on se demande ce que ce seront ces 16 000 logements, si ça sera quelques dizaines de gymnases
oui, c'est ça,
éparpillés.
Est-ce qu'on a fini avec le projet de loi pour l'immigration ? Eh ben, on va passer à la suite des infos.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info. Et on va revenir sur un sujet pas beaucoup plus léger.
Et non, même si on a beaucoup parlé, là aujourd'hui, ce soir, on a choisi des thèmes dont on cause beaucoup dans les médias, mais pour en parler d'autres manières. Donc hier, il y a eu la commémoration du 5 novembre rue d'Aubagne, donc c'est à Marseille, où des centaines de personnes se sont retrouvées à 9h du matin pour donc commémorer les morts de l'année dernière, un an jour pour jour après l'effondrement de l'immeuble. Et donc pas mal d'actions et d'événements sont prévus dans cette semaine là, qui va être une semaine commémorative, avec une grande manif samedi 9 novembre. Mais avant tout, ce qui est important de préciser, c'est que ces collectifs, dont le collectif du 5 novembre, se battent activement depuis un an et plus pour dénoncer les politiques publiques anti-pauvres de Godin et ses sbires, et trouver des solutions concrètes pour l'hébergement de personnes, et parce que beaucoup de logements sur Marseille sont insalubres. Donc voilà, c'est une année aussi d'énormes luttes sur le logement qui vient de s'écouler à Marseille. Et de Noailles à la Plaine, en passant par la Belle de Mai et Belzunce, c'est toujours le même plan que la mairie de Marseille et la Soleam impose: laisser pourrir les quartiers des pauvres pour pouvoir ensuite mieux les valoriser, les rentabiliser. Et vous voyez, dans cette logique là, racheter pas cher dans un quartier qu'on a laissé pourrir pour louer ensuite cher, que les riches s'en mettent plein les poches et qu'ils embourgeoisent les quartiers afin d'avoir des habitantes à plus fort pouvoir d'achat. Donc c'est mille fois rentable pour les capitalistes, quoi. Ils signent, moi, il y a quelques années, quand ils ont choisi de laisser pourrir des quartiers, ils ont signé, quoi. Ils se sont dit c'est des manières de faire plein d'argent, quoi. Donc on parle de Marseille, mais cette dynamique s'opère dans beaucoup de grandes et moyennes villes d'Europe, ce qu'on souvent on appelle gentrification. Et du coup, hier, via le journal Libération, le rapport du Haut Comité au logement pour les personnes dévalorisées a été publié. Et en fait, c'est une commission qui bosse là-dessus. Et vous voyez, comme l'Observatoire des libertés en prison, qui annuellement fait un état des lieux. Et donc cette année, le Haut Comité a axé son document sur la question du logement indigne à Marseille. Ça s'appelle « Marseille, de la crise du logement à une crise humanitaire ». Et il sera remis dans quelques semaines, à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe. Bon, on sait très bien que ce genre de documents ne font qu'office d'épouvantail pour l'exécutif. Mais comme l'Observatoire des prisons, il dénonce de manière officielle les agissements de politique publique, ce qui est quand même toujours important, Moi, je trouve qu'il y ait des documents comme ça, officiels, et pas que juste des militants qui parlent de trucs, enfin, qui dénoncent. Et donc, j'avais envie de vous citer certaines des choses qui sont dites dans ce rapport. Donc, les effondrements rue d'Aubagne ne révèlent pas de faits divers. Pardon. Je recommence. Les effondrements rue d'Aubagne ne relèvent pas de faits divers accidentels et imprévisibles. Ils résultent d'une continuité de dysfonctionnement des acteurs publics. Donc ça, ça veut dire qu'il montre que c'est la faute de la mairie. Il pointe notamment l'absence de traitement de l'habitat indigne jusqu'à la gestion chaotique de la crise. Ainsi, le rapport précise qu'avant l'effondrement de la rue d'Aubagne, pas moins de 1400 signalements d'habitat indigne étaient restés sans réponse. Mais en 2017, seuls 57 arrêtés de péril ont été pris par la municipalité et aucun pour insalubrité. Et ces chiffres sont à mettre en rapport avec les 40 000 logements indignes, soit 13% des résidences principales à Marseille. Le rapport pointe clairement la responsabilité de la mairie dans la crise marseillaise, mais également celle de l'État qui a laissé faire. Les services de la préfecture connaissent le nombre de signalements effectués pour cause d'insalubrité ou de péril et auraient pu comparer avec le nombre d'arrêtés effectivement pris. Bref, on en a déjà parlé là de Marseille, mais je voulais en parler pour parce qu'il y a eu ces actions cette semaine, que c'est important qu'il y a des gens plein de collectifs en lutte et de gens qui continuent à lutter face à ces problèmes de logement et face à l'embourgeoisement des quartiers du centre-ville. Et j'avais envie de vous conseiller aussi vivement d'aller écouter sur Radio Galère, c'est une radio marseillaise, militante, associative et tout ça. Les infos de 12h30, donc les dernières, qui étaient le 1er novembre, donc vous pouvez les trouver sur le net, et qui étaient axées sur les logiques donc d'embourgeoisement des quartiers du centre-ville. Et donc voilà, pour finir, n'hésitez pas à les écouter. Et puis si ce week-end, par tout hasard, vous aviez prévu de prendre le Ouigo pour aller voir la mer à Marseille, et ben peut-être aller faire un détour à la manif.
Canu Info.
Et alors, eh ben, on ouvre notre dernier chapitre, puisque ce Canu Info a été découpé en chapitres, hein, pour une des premières fois. Bref, en tout cas, le chapitre racisme d'État, discrimination, tout ça. Et alors, vous avez certainement entendu parler du mouvement, je sais pas comment dire, du 5 novembre là, qui dit que les femmes peuvent s'arrêter de travailler ou auraient pu s'arrêter de travailler le 5 novembre dernier à partir de 16h47, car leur différence de salaire par rapport aux hommes à travail égal fait que elles font du bénévolat du coup de début novembre jusqu'à fin décembre.
C'est vachement une initiative autour des grèves des femmes.
C'est ça. Et du coup voilà. En gros, donc ça marche pour les femmes, mais si on parle des femmes racisées, c'est le phénomène est bien pire. Alors bon, comme en France, c'est pas possible de faire des statistiques sur l'origine ethnique ou sur la couleur de peau des personnes. En tout cas, aux États-Unis, ça l'est, et ça peut permettre de créer des outils de lutte contre la discrimination. En tout cas, cette fois-ci, ça fait ça. Puisque une femme racisée, elle, aurait pu s'arrêter de travailler à partir du mois de juin. Alors bon, ça concerne les États-Unis, c'est grosso modo à peu près la même chose en France. Puisque
à partir des statistiques, donc qu'un journal a fait, c'est ça ?
C'est ça. Et ben du coup, c'est à partir du mois de juin, donc c'est-à-dire que les femmes racisées travaillent, sont payées de janvier à juin. Après, c'est du bénévolat. Voilà. En gros, aux États-Unis, une femme noire perçoit 38% de moins qu'un homme blanc et 21% de moins qu'une femme blanche. Voilà, et l'article précise que bien sûr, comme et c'est le cas dans le monde entier, les femmes racisées sont là pour nettoyer le monde. C'est-à-dire que les femmes racisées sont énormément surreprésentées dans toutes les tâches de femmes de chambre,
de
femmes
de
ménage, service, tout ça. Du coup, voilà, on l'a bien vu d'ailleurs au travers des luttes qu'on avait relayées là sur les femmes de chambre des hôtels Ibis à Paris ou à Marseille, ou voilà.
Tout à fait.
Du coup, voilà pour la petite part discrimination.
Et voilà, et puis on peut il y a une manif. Et là, on parle beaucoup ce soir de manifs qui sont pas à Lyon, mais dimanche, il y a une manif contre l'islamophobie à Paris. Et on fait qu'en parler là dans les canuts info, mais il y a ces dernières semaines, on a pris de nouveau une grande place médiatique. Le racisme et l'islamophobie, la suite aux déclarations d'un élu LR en Bourgogne contre une maman voilée. Et du coup, c'est pour dire que les femmes racisées, voilées ou non, musulmanes ou non, subissent au quotidien cette ambiance nauséabonde dans les espaces publics et au travail et à l'école. Et du coup, j'avais envie de vous faire un petit conseil de lecture. Quand vous avez du temps, vous pouvez aller voir sur Les mots sont importants. Ça s'appelle « La laïcité pour les nuls, une piqûre de rappel contre un virus islamophobe ». Et c'est Ndella Paillé qui a fait ça, qui a rédigé cet article. Et en fait, c'est comment la majorité des intellectuels, journalistes, responsables politiques qui se réclament des Lumières, donc s'estiment doués d'une capacité intellectuelle, en sont-ils arrivés à une compréhension de la laïcité qui signifierait absence de religion, autrement dit athéisme. Et donc voilà, n'hésitez pas à les lire parce que tout ce qui a été fait au début des années 2000, à partir de 2004, on dirait que ça ne suffit pas. Donc ces dernières semaines, il y a une grande couche de personnes qui doivent faire de la pédagogie pour arrêter, ou limiter un certain nombre de stéréotypes racistes. Et même si c'est un peu long, j'avais envie de vous lire le texte d'appel à la manif de dimanche, là, parce qu'on a un peu de temps et puis que c'est important, justement, d'avoir des médias qui racontent d'autres choses. Depuis bien trop longtemps, les musulmanes et les musulmans en France sont la cible de discours venant parfois de responsables politiques, d'invectives et de polémiques relayées par certains médias, participant ainsi à leur stigmatisation grandissante. Depuis des années, la dignité des musulmanes et des musulmans est jetée en pâture, désignée à la vindicte des groupes les plus racistes qui occupent désormais l'espace politique et médiatique français, sans que soit prise la mesure de la gravité de la situation. Depuis des années, les actes qui les visent s'intensifient. Qu'il s'agisse de discrimination, de projets ou de lois liberticides, d'agressions physiques de femmes portant le foulard, d'attaques contre des mosquées ou des imams, allant même jusqu'à la tentative de meurtre. L'attentat contre la mosquée de Bayonne le 28 octobre en est la manifestation la plus récente. Et les services de l'État savent que la menace terroriste contre les lieux de culte musulmans est grande. Il a fallu que cette violence jaillisse aux yeux de tous, à travers l'humiliation d'une maman et de son enfant par un élu RN au Conseil Général de Bourgogne-Franche-Comté, pour que tout le monde réalise ce que des associations, des universitaires, des personnalités, des syndicats, militants, militantes et au-delà, des habitants dénoncent à juste titre depuis des années. Parce que l'islamophobie en France est une réalité, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il ne s'agit plus ici de débat d'idées ou de critique des religions, mais d'une forme de racisme explicite qui vise des personnes en raison de leur foi. Il faut aujourd'hui s'unir et se donner les moyens de la combattre, afin que, plus jamais, les musulmanes et musulmans ne puissent faire l'objet de tels traitements. Et donc, nous marcherons pour dire stop aux discours racistes qui se déversent sur nos écrans à longueur de journée, dans l'indifférence générale et le silence complice des institutions étatiques chargées de lutter contre le racisme. Stop aux discriminations qui visent les femmes portant le foulard, provoquant leur exclusion progressive de toutes les sphères de la société. Stop aux violences et aux agressions contre les musulmanes et les musulmans, qui se retrouvent progressivement déshumanisés et stigmatisés, faisant d'eux des terroristes potentiels ou des ennemis de l'intérieur. Stop aux délations abusives, jusqu'au plus haut niveau de l'État, contre des musulmans dont le seul tort serait l'appartenance réelle ou supposée à une religion. Et enfin,
c'est que t'avais plein de feuilles aussi.
Stop à ces dispositifs de surveillance de masse qui conduisent à une criminalisation pure et simple de la pratique religieuse, les conséquences notamment pour des salariés licenciés et des familles déstabilisées sont désastreuses et ne peuvent plus être tolérées. Cette criminalisation se fait au détriment des libertés fondamentales et des principes les plus élémentaires d'égalité censés guider notre pays. Et du coup, ce communiqué finit en disant, nous, musulmans ou non, disons stop à l'islamophobie. Et nous serons nombreux et nombreuses pour le dire ensemble le 10 novembre prochain à Paris. Voilà. C'était bien à lire hein, quand même.
Oui.
Ça fait plaisir d'essayer d'avoir d'autres formes de discours que ce qu'on peut entendre. Et du coup, toi, t'as d'autres choses. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce Canu Info.
Et pour les manifs, on peut dire, il y a une manif à Lyon qui est organisée samedi 9 à 15h30,
ah oui,
place Bellecour. C'est toujours sur les, enfin, pour contre les attaques qui ont lieu au Rojava en ce moment, et pour voilà, pour soutenir la résistance qui a lieu là-bas, et bref, contre la guerre en Syrie en général aussi.
Samedi 15h30, place Bellecour.
C'est ça. En attendant, hop, merci de nous avoir écoutés, et vous retrouverez...
Je peux faire une petite info agenda Radio Canu, c'est que samedi 9 à 14h, avant d'aller à la manif, vous pouvez écouter le 102.2 FM. Il y aura une émission sur la question des histoires trans avec une table ronde organisée par des personnes du festival FACT, qui est un festival de promotion des artistes trans. Voilà. Et du coup, ça va être très intéressant à écouter.
Cool. Et ben, à la semaine prochaine, et après, à 20h, vous retrouverez Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Bonne soirée.
Radio Canu. C'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.